C'est une fête qui nous est très précieuse. Elle répond tellement au climat de Noël, la Sainte Famille. Et bien que, et là, aujourd'hui, ce soir, il y en a beaucoup. Et je m'en réjouis fort. Et la Vierge, qui nous reçoit tous, s'en réjouit fort aussi. C'est une année consacrée à la famille, justement. Et le pape a écrit une lettre à ce propos. Et il rappelle les vertus familiales en général, l'entraide et l'amour nécessaires. Et il évoque beaucoup dans sa lettre une époque nouvelle. Mais ce n'est pas une nouveauté de l'esprit, parce que c'est l'époque nouvelle de la pandémie, du monde post-pandémique. C'est pas une perspective très agréable, celle de la pandémie, s'entend. Et combien les familles ont souffert. Voilà ce que le pape retient dans son message pour les familles, en les encourageant. L'Église se préoccupe des familles, ça c'est clair. La famille, c'est quelque chose de fondamental. L'enfant Jésus, il est le centre de cette sainte famille qui nous est donnée en modèle. C'est Dieu qui est au milieu de la famille. Dieu réellement présent, qu'il faut rejoindre, mais Dieu qui irradie la grâce et qui rejoint chaque membre de la famille. Donc c'est dans les deux sens, bien sûr. La famille, c'est la joie de la communication de la vie. Ça me rappelle toujours le prologue de Jean dans son évangile, en parlant du Verbe éternel. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et bien voilà comment, par le moyen de la famille, comment Dieu donne à chacun et à chacune la possibilité de contempler ce mystère de la vie, à chaque moment, de l'approfondir au gré de la liberté et du courage de chacun. Oui, c'est vraiment la joie profonde procède de cette communication de la vie, pas seulement dans la génération, mais dans l'échange d'amour entre les membres de la famille, dans cette croissance. Et tant qu'on est en croissance, on est vraiment dans la dynamique du vivant. C'est une joie simple, une joie qui est belle. La consécration à Dieu, elle caractérise là les deux grandes figures qui nous sont montrées. Samuel, qui est un des plus grands prophètes de l'Ancien Testament, et tout jeune, vraiment de sa prime jeunesse, il est confié par sa mère au temple. Et puis bien sûr Jésus, qui a 12 ans, eh bien on le voit, reçoit, c'est ce qui se passe, hein, reçoit une vocation. Et cette vocation, elle est précoce, on le voit, puisqu'il est encore enfant, il a 12 ans, Samuel, il est encore plus jeune. La vocation à connaître Dieu, à se consacrer au mystère de Dieu, pas forcément dans la hiérarchie ecclésiastique, mais à s'y consacrer dans l'ordre de la foi. Et c'est parce que Dieu aime les enfants. Et ça, c'est une vérité bien profonde. On voit Jésus qui embrasse les enfants dans l'Évangile, qui les accueille chaleureusement. Et c'est pourquoi il faut éduquer les enfants au mystère divin. Ça, le monde souffre et souffrira toujours plus de l'absence d'éducation religieuse des enfants. Il faut savoir leur parler, mais aller profondément dans l'enseignement du mystère divin. Et c'est beau, c'est toute la vocation des pédagogues, c'est beau de trouver les mots pour rejoindre un enfant et pour le hisser jusqu'aux splendeurs de la lumière éternelle. La Sainte Famille a l'enfant Jésus en son centre. Elle nous montre que chaque année, cette famille de Nazareth, cette Sainte Famille, se rendait à Jérusalem en pèlerinage. Et c'était la caractéristique des gens les plus pieux à l'époque. Donc c'est une famille pieuse. Dieu est la finalité de cette famille, on s'en doute. Mais dans les faits concrets, la Sainte Famille ne se contentait pas de la sainteté de ses membres. La Vierge Marie, toute immaculée qu'elle fût, Joseph, ce serviteur si impeccable, trouvait nécessaire de se ressourcer au moins une fois par an dans cette dans ce pèlerinage de la Pâque, de la grande Pâque au Temple. Et ils ressourçaient Jésus, dont ils avaient évidemment la responsabilité. Une famille aimante, cette sainte famille, qui respecte la liberté de tous. Ça n'empêche pas l'éducation, ça n'empêche pas l'obéissance des enfants ou l'obéissance mutuelle des conjoints. Mais il y a cette liberté dans la vocation de chacun des membres. Une découverte et un apprentissage libre. Et donc, l'amour est forcément la condition sine qua non de cette liberté. C'est une famille humble, mais qui ne cherche pas à se mettre au-dessus de la société, à conquérir le monde. C'est la vocation de la famille en général, c'est cette humilité-là. C'est de tisser la trame du monde, d'en être un des maillons. Dieu a sanctifié le modèle de la famille monogame. C'est clair, à travers la Sainte Famille, alors que la polygamie existait de son temps encore, eh bien, c'est vraiment la famille monogame qui est célébrée par le Christ et par son Église à sa suite. À 12 ans, Jésus découvre quelque chose de nouveau. C'est ce que l'Évangile veut nous montrer, la paternité divine. Et c'est si important que Marie a gardé cet événement dans son cœur pour nous le transmettre par l'intermédiaire de Saint Jean. C'est un événement très important, la découverte de Dieu véritablement. Tant qu'on ne découvre pas Dieu, on regarde son autorité comme quelque chose de fonctionnel, de froid, de distant. Découvrir la paternité divine, c'est découvrir à travers cette autorité, eh bien, le vivant par excellence. C'est une immense expérience, c'est l'expérience de la maturité. On se rend compte à quel point notre société est immature, parce que les relations qu'elle a à l'autorité sont toujours purement fonctionnelles. Il n'y a aucune paternité dans l'autorité civile. Et sans Dieu, il ne peut pas y en avoir. La joie de Noël, car cette fête au lendemain de Noël, et Noël, c'est une période, c'est du 25, mais jusqu'à l'Épiphanie, on est dans ce temps de Noël, dans cette joie de Noël. Et vraiment, la famille, c'est le temple du culte de la vie et de l'amour dans cette perspective. Et c'est de là que naît cette joie unique, cette joie par laquelle la vie, dans sa gratuité, eh bien, est accueillie comme un don de Dieu. La vie, l'accueil gratuit de la vie, eh bien, nous entraîne jusqu'à la contemplation du mystère même de la vie. Dans un monde marchand comme le nôtre, l'accueil gratuit d'existence, eh bien, devient quelque chose d'insupportable, d'où les restrictions sur les naissances, etc. Et tandis que Dieu veut montrer aux hommes, à travers les alliances humaines qu'un homme et une femme peuvent tisser en ce monde, eh bien, Dieu veut les faire descendre ou monter, peu importe, jusqu'aux profondeurs les plus grandes du mystère de la vie, parce que le mystère de la vie, c'est le mystère de Dieu lui-même. Le mystère de la vie biologique dans un cosmos qui ne peut pas le tenir. La matière, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de particules, on va résumer comme ça, mais qui s'unissent, se désunissent selon des attractions et des forces, les quatre grandes forces. Et toute la matière, toutes ces particules sont obligées de participer à ce mouvement universel. La vie, ce qui définit la vie, c'est la capacité d'être libre vis-à-vis de ce devenir universel. Le vivant, certes, est dans le cosmos, mais en même temps, il travaille pour lui-même. Il puise sa nourriture à l'extérieur, mais pour lui. C'est le début de ce qui sera dans la créature spirituelle, la liberté. Et il cultive une immanence qui est par définition personnelle, un monde qui est le sien, ce qui devient l'intériorité dans la créature spirituelle. La capacité de s'extraire du mouvement universel de la matière, de ce grouillement permanent, de ce mouvement permanent. Et c'est ça, le mystère de la vie. Le mystère de la vie, c'est quelque chose qui est tellement, je dirais, scandaleux dans l'ordre matériel, parce que ce qui est scandaleux pour la matière, c'est que tout ne participe pas à ses projets, on va dire ça comme ça, à son mouvement général. Le vivant s'extrait de ce mouvement, il est capable de travailler pour lui-même et non pas de travailler pour ce cosmos qui l'entoure. Au contraire, il utilise ce cosmos pour l'obliger à travailler à ses propres fins de vivant. Dieu nous montre à travers les choses les plus basiques, ce monde matériel qui nous entoure, eh bien, le mystère même de la vie. Il ne peut sortir que de Dieu. L'homme ne peut sortir que de Dieu. La nature ne peut pas produire l'homme. De même que la Vierge Marie, dans la Sainte Famille, s'est contentée, eh bien, d'offrir au Saint-Esprit son corps, son code génétique. De même, eh bien, l'âme ne peut pas sortir de la matière, elle sort immédiatement des mains de Dieu, du cœur de Dieu, car nous sommes tous sortis du cœur de Dieu. Alors, contemplons ce grand mystère que Jésus rend présent au milieu de nous, à la crèche, et au milieu de chacune de nos familles.